Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Champ contre Champ, émission mensuelle sur le cinéma, réalisée sur fréquence protestante par l'association Profil. Cette émission sera présentée par moi-même, Jacques Champeau, et animée par Françoise Wilkowski. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Par Jean Wilkowski. Bonjour Jean.
Bonjour tout le monde.
Et par Jean-Michel Zucker. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Jacques.
Alors cette première émission de l'année, l'occasion bien sûr de présenter tous nos vœux à nos auditeurs et nous espérons que 2018 nous apportera de bonnes surprises au niveau cinéma. La période des fêtes a rempli les salles des traditionnels best-sellers de fin d'année, dont certains étaient d'ailleurs de bonne qualité, comme le nouveau Star Wars, un des meilleurs de la série, ou certains dessins animés comme Coco, le dernier film sorti des studios Pixar. Mais janvier nous apporte des films plus sérieux, dont les derniers films présentés à Cannes et auxquels se mêlent des films sortis à la Mostra de Venise en septembre. Nous en avons choisi trois comme d'habitude et comme souvent venant d'horizons très différents. Le film de la japonaise Naomi Kawase, Vers la lumière, celui du turco-allemand Fatih Akin, In the Fade, et enfin le film Three Billboards, Les panneaux de la vengeance, réalisé aux États-Unis par un réalisateur britannique, Martin McDonagh. Nous allons commencer par Vers la lumière, le film de Naomi Kawase, qui a reçu le prix du jury œcuménique à Cannes en mai dernier. Naomi Kawase est une grande cinéaste, nous en avons déjà parlé ici, très souvent sélectionnée à Cannes, où elle a remporté plusieurs récompenses, dont la Caméra d'Or en 1997 pour son premier long-métrage Suzaku, je crois qu'elle était d'ailleurs la plus jeune réalisatrice, ou réalisateur même à avoir eu ce prix, le Grand Prix du jury pour La Forêt de Mogari en 2007, et plus récemment, elle nous avait enchantés avec Still the Water et Les Délices de Tokyo. Son cinéma est original, poétique, à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, inspiré à la fois par la nature et par les mythes du Japon traditionnel. Il raconte des histoires qui sont souvent ténues, mais qui sont émouvantes, et qui mettent souvent en scène des personnages âgés ou des malades. Alors Jean-Michel, le jury œcuménique a-t-il bien fait de couronner ce film ?
Oui, je pense que ce film devait forcément attirer l'attention des jurés du prix œcuménique. L'ensemble de l'œuvre de Naomi Kawase est une mise en scène sensible et délicate des moments émouvants de la vie. Elle porte un regard ébloui sur la nature. C'est bien la lumière de l'invisible que transmettent ces images et le travail documentaire de la réalisatrice est minutieux. L'objectif de Vers la lumière est de dévoiler un métier mal connu, celui d'audiodescripteur, qui permet aux malvoyants et aux non-voyants d'appréhender le déroulement et le sens d'un spectacle de théâtre ou de cinéma en insérant une voix off entre les dialogues des personnages et de stimuler leur imagination, de leur permettre en quelque sorte de percevoir les images qu'ils ne peuvent pas voir. Beau programme donc que Kawase illustre dans une fiction qui ici, comme dans Les Délices de Tokyo, est la rencontre de deux êtres marginalisés, Misako, une ravissante jeune femme audiodescriptrice, et Nakamori, un célèbre photographe dont la vue se détériore irrémédiablement. Misako se plaît à décrire très finement les images en mouvement sur l'écran pour révéler sensations et émotions à ceux qui ne peuvent plus les voir. Chaque seconde de son existence lui procure un grand bonheur et s'épanouit dans sa curiosité renouvelée pour les petites choses de la vie quotidienne. Nakamori doit, quant à lui, se construire un nouveau rapport au monde et aux autres. Il doit désormais apprivoiser et développer d'autres sens pour compenser la perte et imaginer ce qu'il ne voit plus. On le sent souvent prêt à sombrer dans la dépression et la solitude.
Oui, et bien sûr, de leur rencontre entre ces deux êtres va naître l'amour.
Hélas, oui.
Hélas.
Et d'une façon sans doute un peu trop convenue, car on aurait aimé que ce sentimentalisme lumineux, marqué par une surabondance de gros plans et une bande-son un peu exubérante, ait laissé plutôt la place à une réflexion sur les rapports entre l'image et le son, et l'analyse de la richesse et des limites de la médiation qu'offre aux malvoyants l'audiodescription. Y a-t-il des choses qui échappent à notre perception, même si nous pouvons les voir ? Pouvons-nous percevoir ce que nous ne voyons pas ? Certes, la réalisatrice tente d'explorer ces questions en miroir par des miroitements de lumière et ses contre-jours, et tisse les images du présent avec celles du passé en des cadrages serrés, mais l'émotion ne nous vient pas. Ces deux histoires parallèles mais renversées, il va vers l'obscurité alors qu'elle est aspirée par la lumière, illustrent deux façons de percevoir le monde et vont faire naître entre ces deux personnages des sentiments forts et un amour qui semble plus, face aux fantasmes de mort qui les assaillent, le reflet d'une pulsion de vie que l'expression d'une véritable relation passionnée. En sortant de ce film, on est finalement surpris et un peu fâché de ne pas avoir été aussi heureux et conquis qu'on s'attendait à l'être en entrant dans la salle.
Oui, on va en discuter. Je partage un peu ce point de vue, mais voyons. Françoise, qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Oui, moi, je suis aussi un peu partagée sur ce film. Bon, d'une part, j'ai trouvé le sujet intéressant, celui du métier d'autodescripteur. Et la tragédie de la perte de la vue, surtout chez un photographe. Les passages où l'on voit Nakamori, ou plutôt où on voit ce qu'il ne voit pas, sont oui. particulièrement émouvants et bien faits. On retrouve bien sûr la façon de filmer de Naomi Kawase, pleine de poésie, de contemplation, de nuances dans la manière de rendre la lumière. Mais est-ce le côté un peu démonstratif, trop de pathos et une musique un peu banale, ou la longueur du film, en fait, je me suis quand même ennuyée.
Oui, on va en reparler effectivement, mais le côté sentimental est un peu raté et nuit au film, qui oui. par ailleurs est quand même très intéressant. Jean,
moi je suis un peu de l'avis de tout le monde, parce que dans les autres films de Naomi Kawase, en particulier Les Îles de Tokyo, la description des personnages et surtout la description de Misako, la fille, c'est subtil, c'est tout en finesse, tout en détail, à la limite d'ailleurs presque trop. Et c'est pour moi, c'est par là que le film pêche, c'est-à-dire qu'elle en fait un peu trop. Et du coup, on a du mal à prendre.
Oui, mais je crois vraiment, enfin vous l'avez tous un peu dit, c'est vraiment pas pour cette histoire qu'il faut aller voir le film. Je pense que ce qui est passionnant, c'est plutôt la réflexion sur comment peut-on décrire une image, qui est au fond au cœur de notre problématique souvent dans l'analyse de film. Est-ce qu'il faut en dire trop? Est-ce qu'il faut en dire pas assez? Et au fond, ce travail à partir de l'autodescription est amené à un travail passionnant de réflexion sur la signification de l'image, quoi.
Oui, mais c'est ça qu'on ne voit pas vraiment à fond.
Bah, on le voit quand même.
C'est noyé dans l'histoire sentimentale.
Alors c'est pas au début, je pense que c'est vraiment ça le sujet. Effectivement, après, l'histoire sentimentale tend à prendre un peu trop de place, je dirais. Même si, quand même, là aussi, il y a quand même une réflexion sur l'image. Françoise, tu parlais de la façon dont on voit progressivement les images. Enfin. Vu par celui qui devient aveugle.
Oui, la moitié de l'image est occultée.
Voilà, s'occulter. Ça, c'est aussi assez bien fait. C'est pas si facile à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions sur ce film, mais qui est un petit peu gâché par ce côté sentimental.
Il y a beaucoup de scories, finalement, dans ce film, hein, qui gêne et qui nous agace.
Il faudrait qu'il soit remonté de façon plus courte.
Oui, absolument. On est bien d'accord.
Il y a aussi une réflexion sur le temps, sur le souvenir du temps qui a fui, des images, etc. Alors ça, on retrouve ça souvent chez Kawase. Et là, c'est vrai que c'est amplifié par l'histoire du photographe, parce qu'au fond, le temps fut d'autant plus que les souvenirs photographiques ont disparu, quoi.
Oui.
Je pense que c'est un film assez intéressant sur le plan intellectuel, qui effectivement a un peu pâti peut-être pour la rendre plus grand public. Elle a voulu mettre cette histoire qui passe pas très très bien, ou qui passe qu'à moitié.
On n'y croit pas trop à l'histoire d'amour quand même.
Voilà, c'est ça.
Il aurait fallu le resserrer, effectivement. C'est
peut-être
toujours bien un film pas trop long.
Comme a dit Jean-Michel, on aurait aimé l'aimer plus, quoi.
Absolument.
Alors, nous allons passer au deuxième film de notre sélection, qui est In the Fade de Fatih Akin. Alors, Fatih Akin est un réalisateur allemand d'origine turque, Et cette double culture est à la base de la plupart de ses films, avec de grandes réussites qui ont été primées dans les principaux festivals européens. Il connaît ainsi la consécration internationale avec Head On, qui emporte l'Ours d'Or à Berlin en 2004, un drame qui se passe dans la communauté turque-allemande. En 2007, il obtient le prix du scénario à Cannes. Il a fait tous les grands festivals européens. Donc pour l'autre côté, un très beau film qui fait se croiser les destinées d'hommes et de femmes en Allemagne et en Turquie. Et en 2009, il change de genre en réalisant une comédie assez déjantée, mais que je trouve moi personnellement très réussie, Soul Kitchen, qui lui vaut le grand prix du jury à la Mostra de Venise. Alors, dans ce cas, les héros du film n'appartiennent d'ailleurs pas à la communauté turque, mais à la communauté grecque en Allemagne. Avec In the Fade, qui est d'ailleurs une traduction anglaise assez bizarre, c'est la mode maintenant de mettre des titres anglais à tous les films, du titre original Aus dem Nichts, Fatih Akin s'attaque à la montée de l'extrême droite en Allemagne, et on va voir si c'est réussi ou pas. Alors Françoise, est-ce que ce film est à la hauteur de ses films précédents? Qu'en penses-tu?
Moi, je pense que oui, clairement. Et Diane Kruger aussi est à la hauteur. C'est un grand plaisir de l'avoir joué dans sa langue maternelle pour la première fois au cinéma, donc en allemand. Alors, elle qui est trilingue, allemand, anglais et français. Elle a d'ailleurs obtenu un prix d'interprétation à Cannes.
Oui, le prix d'interprétation.
Le prix d'interprétation à Cannes pour ce rôle. C'est donc elle incarne une femme désespérée d'avoir perdu son mari et son fils qu'on a retrouvé carbonisé après un attentat. Et cette femme va se reprendre en main pour essayer de faire payer les coupables. Sa silhouette gracieuse et fragile, son visage mouillé sans maquillage rendent bien compte de la souffrance et du désespoir de son personnage et mettent en valeur sa détermination farouche. Dès les premières images, Fatih Akin revient sur le thème qui lui est cher de l'immigration. On voit un mini-film d'amateur, caméra à l'épaule, sur le mariage en prison d'un détenu kurde, Nouri, avec une belle Allemande blonde, amoureuse. C'est notre Katia. Et l'histoire commence vraiment 6 ans après et s'inspire de faits réels, c'est-à-dire une série d'explosions contre les immigrés turcs en Allemagne de 2002 à 2007, commis par des néo-nazis. Aujourd'hui, cette explosion, c'est venu de nulle part, hein, comme le dit le titre « Aus dem Nichts », le titre original. Cela fait écho au contexte des nombreux attentats récents en Europe et ailleurs, le dernier en date à Kaboul samedi dernier, qui ont fait des centaines de morts et endeuillé de nombreuses familles. Le réalisateur exprime avec force son indignation et son empathie avec la douleur des familles. Une scène très émouvante montre par exemple la mère, seule dans sa maison déserte, en larmes et recroquevillée dans le lit de son fils. L'implication des secours, leur difficulté à annoncer la mauvaise nouvelle, les réactions des proches sont également filmées avec beaucoup de délicatesse.
Oui, puis alors, dans une deuxième partie, on pourrait dire, vient ensuite le temps du procès. Et comment ce procès est-il montré?
Alors, le procès, après l'enquête de la police qui a arrêté un couple de jeunes nazis, est restitué dans les détails au cours de plusieurs scènes, dont certaines sont même difficiles, comme celle où un expert rapporte d'une voix précise et neutre les ravages provoqués par les clous de la bombe artisanale sur les différentes parties des corps du père et de l'enfant. Fatih Akin prend nettement parti et il nous prend à témoin pour dénoncer une justice allemande partisane, puisque malgré des faits indéniables, elle déclare les deux néo-nazis non coupables.
Mais n'est-ce pas un peu forcé, un peu surprenant quand même?
Oui, en effet. Et cela n'est pas sans rappeler, par exemple, la dénonciation du cinéaste allemand Lars Kraume dans Fritz Bauer, un héros allemand, un film de 2015. Mais l'histoire de ce film se déroulait dans les années 50, quand de nombreux nazis occupaient encore des postes dans l'administration. Alors, après le procès, le film prend des allures de thriller. Il se déplace en Grèce, car Katia est sur les traces d'un témoin qui a menti au procès pour couvrir le couple d'assassins. Et cet homme est un membre du parti grec d'extrême droite, Obdoré, parti grec. On ne divulgâchera pas, comme disent les Canadiens, la suite et la fin, mais le scénario est assez cohérent. Bon, certains critiques ont trouvé qu'il pleuvait beaucoup dans le film, mais on est en bourg et cela arrive souvent, à Paris aussi d'ailleurs. En plus, là, nouveau de belles scènes d'extérieur, avec une Diane Kruger dont les cheveux et le visage trempés font écho à ses larmes, et également des face-à-face intimistes dans les maisons, au son léger de la pluie qui tombe dehors. Moi, j'ai trouvé que c'était une histoire bien racontée, bien filmée, et au total, un bon film.
Alors, Jean-Michel, est-ce que tu partages cet avis ou pas ?
Pas vraiment. J'ai pas grand-chose à dire, sinon des réserves, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais j'ai pas bien compris pourquoi la Diane Kruger avait eu le prix d'interprétation. Elle m'a semblé plus monolithique dans sa souffrance et dans son désir de vengeance, dont on a l'impression que le réalisateur fait un peu l'apologétique. Enfin, il est cette mise en scène de la vengeance, moi, m'intéresse relativement peu. Elle fait curieusement écho au film que nous allons voir ensuite, où une vengeance est également en scène. Et ce film m'a déçu. J'ai trouvé que le pathos qui était rehaussé par la mise en scène à chaque étape était un élément qui nuisait à ce film et empêchait le sentimentalisme apporté qu'on soit vraiment qu'on rentre dedans et qu'on l'admire. Donc je suis un petit peu, enfin plus que partagé dans cette appréciation.
Oui, Jean.
Moi, j'étais finalement assez heureusement surpris par ce film, et parce que j'avais un peu peur de la récupération politique. Et en fait, il n'y en a pas, parce que le vrai sujet du film, enfin, il y en a peu. Il y en a peu. D'ailleurs, ce qui est d'ailleurs très étonnant, c'est que les deux accusés, les néo-nazis, on n'entend jamais le son de leur voix, sauf en Grèce, à la fin. Ouais. Mais dans le procès, on entend l'avocat, mais on n'entend jamais les deux coupables. Hein. Donc, et par contre, le film est centré sur la douleur de cette femme, et une douleur qui est universelle, si on peut dire, quelle que soit la dureté, quelles que soient les terroristes, que ce soit des musulmans, des néo-nazis, tout ce qu'on veut, je crois que la douleur des victimes est toujours la même. Et cette douleur est assez quand même fort bien rendue par Dany.
Oui, moi j'ai été déçu par ce film parce que j'aime beaucoup Fatih Akin et j'ai trouvé que le film était un peu trop schématique. Mais par contre, ouais. Alors contrairement à Jean-Michel, je trouve que le prix d'interprétation féminine est parfaitement justifié. Et je dirais même à la limite que Fatih Akin, il a fait un film pour obtenir le prix d'interprétation féminine, mais au détriment, à mon sens, oui, du film lui-même. Ce que j'ai vraiment pas aimé dans le film, c'est la deuxième partie, c'est la partie du procès. Elle était véritablement d'un schématisme. On n'entend pas la défense, on n'entend pas l'accusation, on entend uniquement la défense avec des arguments tout à fait partiaux.
Oui.
Et ça, pour moi, on a tous en tête les grands procès des films américains. Enfin, c'est un grand classique, le procès au cinéma.
Là, il est raté quand même.
Et pour moi, du coup,
c'est escamoté. Oui.
Il est escamoté. Et du coup, toute la si le film veut être non pas de la propagande, mais encore un film à message, eh bien, je pense que le message est affaibli. Par justement cette partie cruciale du procès.
Est-ce qu'il faut le voir comme un film à message ?
Alors, ça, c'est la deuxième question, effectivement. Après, si on pense que c'est qu'on peut faire abstraction de ça, mais alors pourquoi l'avoir fait aussi schématique si c'est pas... Après, effectivement, reste cette histoire de vengeance, pas vengeance.
Oui.
Moi, j'ai beaucoup aimé la première partie. La toute première partie est magnifique. Et puis, effectivement, il s'est filmé, Fatih Akin. J'ai pas du tout aimé la deuxième. Et la troisième m'a laissé un peu perplexe parce qu'il y a des retournements un peu... Enfin, on va pas dévoiler, évidemment, les spectateurs, mais un peu bizarre.
En fait, elle se venge parce qu'elle pense que si ça avait été l'inverse, c'est que son mari, si elle avait été morte et que son mari ait eu à vivre, lui serait allé jusqu'au bout pour débusquer les coupables. C'est ça qui la motive au départ. Hein.
Oui, il y a sans doute un peu de ça.
Il reste quand même elle. Et c'est, elle est quand même très très bonne.
Moi, je sens que c'est un film sur la souffrance et la douleur.
Oui,
hein.
Oui.
C'est comme ça qu'il faut le voir.
Oui.
Enfin, c'est une souffrance et une douleur qui entraîne la vengeance, et une vengeance qui est quand même assez répugnante, tellement elle est menée avec opiniâtreté.
Moi, on ne peut pas se placer. Enfin, c'est très difficile de se placer à la place des gens. Hein. Moi, je ne.
Sa vie est ruinée.
Qu'est-ce qu'on ferait dans des cas pareils ?
On ne la juge pas.
Mais je pense qu'il ne faut pas la juger. Après, moi, ce qui m'a plutôt. À la limite, je comprends complètement cette réflexe de vengeance. Je comprends moins un petit peu les changements de pied à certains moments. Mais bon. Peut-être qu'il aurait fallu effectivement rester franchement à la peine de cette femme et à ce moment-là éliminer par exemple une grosse partie du procès, quoi, qui aurait à ce moment-là donné peut-être plus de. Mais encore une fois, c'est vrai que son prix est justifié, quoi.
Ah, complètement.
Une question qu'on se pose, c'est la culpabilité de la justice allemande ou pas, là.
Oui, mais alors, parce que on disait que c'était parti de faits divers. Mm-hmm. Et en fait, le fait divers n'est pas du tout comme ça. Ce qui est vrai, c'est que sur un certain nombre de crimes de ce genre, d'attentats de ce genre, la police allemande à un moment est partie beaucoup trop à chercher des coupables du type trafic de drogue, etc., avant de s'apercevoir que c'était
des néo-nazis.
Donc, il y a bien eu effectivement...
Il y a
un écho qu'on peut reprocher, mais c'était au niveau de la police, c'est pas du tout de la justice. Mmh. Et c'est ça qui est un peu, qui moi me met mal à l'aise, c'est qu'en fait, il a déplacé le problème au niveau de la justice. Bon, et là, quand même, c'est un peu plus délicat, quoi.
Oui, le verdict est une surprise, quand même.
Le verdict est quand même une surprise, parce que même s'il peut y avoir un petit peu de flou, il y a quand même beaucoup de...
Parce que c'est quand même le père qui l'a dénoncé, le gamin.
Absolument. Bon, ben écoutez, nous allons passer à une petite pause musicale. Nous continuons avec notre dernier film, Three Billboards, les panneaux de la vengeance, qui a enthousiasmé la critique à la dernière Mostra de Venise. Martin McDonagh est un réalisateur qui est beaucoup moins connu que Fatih Akin ou Naomi McKawase. La raison en est principalement qu'il est venu assez tardivement au cinéma, après une longue carrière d'auteur et de metteur en scène de théâtre. Et même si aujourd'hui il dit qu'il préfère le cinéma au théâtre. Il est né en 1970 à la double nationalité irlandaise et britannique. Et entre 1996 et 2015, donc presque une vingtaine d'années, il a écrit et mis en scène une dizaine de pièces, dont la plupart se passent en Irlande et sont souvent teintées d'humour noir. On va retrouver dans ce film. Son premier long métrage, Bon baiser de Bruges, date de 2007 et reprend une de ses pièces. Et son deuxième, Sept psychopathes, sort en 2012. Donc un film tous les 5 ans à peu près. Les deux sont des comédies noires, et avec Three Billboards, ils nous emmènent au cœur du Missouri. D'ailleurs, le titre anglais est Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Alors Jean, que faut-il penser de ce film très original ?
Eh bien, il faut en penser beaucoup de bien. Parce que ce film, réalisé par un Irlandais qui se passe dans une petite ville du Midwest américain, est bien sympathique. Mais par contre, on ne peut pas dire si c'est un polar, un mélo, un western ou une comédie. Ainsi, quand une scène commence, on ne sait où elle va et comment elle va finir, le réalisateur nous entraînant toujours là où on n'attend pas. Par exemple, dans les premières scènes du film, on voit l'héroïne, Mildred, passer en voiture devant 3 grands panneaux publicitaires désaffectés, descendre de voiture, tourner autour, puis aller les louer en ville. Ensuite, retour sur la route du départ avec une voiture de police qui passe devant les panneaux où Mildred rappelle que sa fille est morte, violée, brûlée et que l'enquête n'avance pas. La démarche de Mildred, la surprise du loueur de panneaux, l'ahurissement des policiers, tout cela fait penser à une comédie. Mais par contre, le texte de l'annonce nous rappelle que c'est un horrible drame auquel est confrontée l'héroïne du film. C'est sur ce double registre qui est bâti l'ensemble du film, et c'est ce qui en fait son souffle.
Oui, le genre de la comédie noire, on a dit que c'était aussi dans les pièces du réalisateur, mais c'est aussi un genre qui existe dans le cinéma américain.
Oui, oui, absolument. D'ailleurs, MacDonald lui-même dit s'être inspiré des frères Cohen. Et d'ailleurs, son actrice principale, Frances McDormand, a joué dans 6 films de ces réalisateurs. Dans les films de ces derniers, les frères Cohen, comme dans beaucoup d'autres films américains actuels, la violence est très présente. Meurtre, abus sexuels, suicides, attentats. Mais ce qui intéresse MacDonald, ce sont les conséquences humaines. Aussi, l'intérêt du film repose sur les personnages et leur évolution, car elles s'avèrent tous beaucoup plus complexes qu'on pouvait le croire à l'origine. Le changement incessant de point de vue sur les protagonistes déstabilise constamment le spectateur. En premier lieu, Mildred, interprétée par l'éblouissante Frances McDormand, c'est une forte femme butée que sa souffrance semble rendre indestructible, mais qui, elle aussi, cache des failles dans ses rapports avec son fils et son ancien mari, et surtout une culpabilité sourde dans la mort de sa fille, à laquelle elle avait refusé de prêter sa voiture la nuit où elle a été assassinée. Mildred s'attaque en premier chef au chef de la police, Willie By, interprété par Woody Harrelson. Présenté d'abord comme un opportuniste cherchant surtout sa tranquillité, il apparaît ensuite comme plein d'humanité et de professionnalisme. Le troisième personnage fondamental est le flic Dixon, joué par Sam Rockwell, petite brute raciste et stupide qui ne connaît que la force brutale. Avec lui aussi, nous ne sommes pas au bout de nos surprises, et sa réconciliation finale avec Mildred est tout à fait inattendue. Au-delà de ce trio d'exceptions, les autres acteurs sont parfaits. Citons le nain James, amoureux transi de Mildred, ou encore la petite amie de l'ex-mari qui confond Polo et Polio. Rarement une telle distribution a été aussi homogène.
Oui, il y a aussi une bande-son que j'ai trouvée assez intéressante.
Oui, le réalisateur insiste beaucoup sur l'importance de la musique, créée par Carter Burwell, qui est aussi le compositeur favori des frères Cohen, rappelons-le. Il a inventé une musique de western qui convient parfaitement à la petite ville du Missouri où se passe l'action. On note aussi de la musique country, de Tones Van Zandt, des titres de Joan Baez et aussi Last Roses of Summer, une ballade irlandaise très connue qui rappelle les origines du metteur en scène.
Françoise,
moi,
tu as aimé aussi ?
J'ai également beaucoup aimé ce film, agréable, prenant et bien joué, bien filmé. Les moments dramatiques sont entrecoupés d'instants de grande humanité, de moments comiques. Et on sent que MacDonald aime vraiment ses personnages, qu'il a de l'empathie pour eux, parce que malgré les difficultés de la vie, ils ont tous leur part de fragilité et de générosité. Il filme souvent avec humour, par exemple en prenant de dos à plusieurs reprises les 3 grands panneaux publicitaires et en nous mettant l'eau à la bouche sur ce qui y est écrit. Frances McDormand est excellente. Elle arrive à rendre une émotion ou une surprise avec un simple battement de paupières. Elle varie son jeu et elle a une énergie incroyable qu'elle communique aux spectateurs et au film. La bande-son est très belle. Elle commence par un air d'opéra chanté par René Fleming.
Il y a tout.
Oui. Et comme dans Bon Baiser de Bruges, la bande-son était très belle aussi.
Voilà. Jean-Michel, tu es moins emballé.
Bon, c'est pas que je suis moins emballé, c'est que j'ai pas vu le même film.
Ah, c'est embêtant.
J'ai pas vu le même film. Je l'ai vu tout récemment et j'ai cherché vainement tout ce que vous y voyez. Et je suis sorti après près de 2 heures de ce film que j'ai vu courageusement jusqu'au bout, en étant très fâché.
C'est bien, c'est bien.
Très fâché. Pourquoi ? Parce que si MacDonald a une empathie vis-à-vis de ses personnages, moi je ne ressens une empathie vis-à-vis d'aucun d'entre eux. C'est un film qui est centré, comme dans In the Fade, sur une vengeance, alors qui est là aussi extrêmement opiniâtrement poursuivi. Et l'héroïne ne me touche pas du tout. C'est un personnage que je trouve sordide, sans intérêt, et que j'aurais envie d'oublier et que j'oublierai très très vite. Elle me dégoûte profondément. Alors,
diable.
C'est pas une belle âme. Il te faut du cavoiser.
Non, pas non plus. Peut-être quelque chose de plus nuancé, au milieu. Mais bon, l'objectif principal, c'est de retrouver ce fameux violeur et meurtrier. La fin, vous n'en avez pas parlé, mais je ne vais pas la spoiler, mais c'est une pirouette absolument.
Mais non, mais il y a des pirouettes tout le temps dans ce film.
Ça n'arrête pas de pirouetter.
Mais non.
C'est ça qui est amusant
sans aucun intérêt. La critique de la police tout au long du film, elle est très traditionnelle. Ce sont tous les poncifs. C'est les noirs. C'est les homosexuels. C'est sans intérêt.
Manifestement, tu n'as pas vu le même film que nous.
J'ai pas vu le même film.
Tu dormais à cette
époque. Le grand flic doux aux beaux yeux, attendrissant, qui est Vidoubi. Bon, c'est un personnage construit de toutes pièces. Donc tout ça me semble extrêmement.
On est au cinéma quand même. Hein.
Ah oui, mais très très artificiel et ça ne suscite pas mon imagination et ça me paraît parmi les plus mauvais films de type américain que j'ai vu. J'accepte une seule chose. La première séquence, avec cette nature désolée dans laquelle il y a les trois panneaux, et la magnifique ballade irlandaise qui, dites-vous, est chantée par Fleming.
Oui.
Mais c'est la seule chose que je sais de ce film.
Jean-Michel, c'est vraiment dommage que tu n'aies pas vu le bon film. Parce que, justement, qui d'ailleurs... Il était encensé par toute la critique à Venise.
C'est possible, et
je pense que, enfin, moi, je rejoins complètement ce qu'ont dit Françoise et Jean. C'est un film, c'est un beau film. C'est un film qui se voit, sur lequel on ne s'ennuie pas. C'est un film où les personnages sont, très intéressants.
Oui.
Très intéressants parce que justement, ils sont pas stéréotypés. On s'attend tout de suite à ce que la police soit raciste, etc. Et on tombe sur un shérif qui est apprécié de tout le monde dans le village. On a effectivement, alors là, le taré dans la police, mais qui finalement se révèle à la longue à son espèce de chemin de Damas. Hein, c'est intéressant quand même.
Oui,
Jean-Michel, quelqu'un qui ressuscite presque comme... Hein, on a un chemin de Damas dans le film.
Non, mais c'est un demeuré.
Et puis...
Mais même la victime, le personnage invisible, dans le seul moment de flashback où on la voit, c'est quelqu'un d'antipathique en fait et de désagréable.
Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce film, c'est qu'effectivement, il reprend alors des schémas classiques de western. La ville d'ailleurs est presque comme un western, quoi. Mais il est quand même très les personnages, à mon sens, sont beaucoup plus fouillés que ce que tu dis. Ouais. Bon, on va pas trop grasser le temps parce qu'il faut que nous passions au coup de cœur. Alors, Françoise, tu nous parles de Normandie Nue.
Alors, Normandie Nue, ça se passe dans un petit village de la Sarthe. C'est un film de Philippe Leguet auquel on doit Les femmes du sixième étage, Alceste à bicyclette et Le coup de la vie, c'est-à-dire des comédies ayant pour thème des faits sociaux ou sociétaux français. Donc, les éleveurs de la Sarthe n'arrivent plus à vivre de leur activité et le maire, incarné par François Cluzet, cherche toutes les solutions pour faire connaître cette situation. Au même moment, passe un photographe américain réputé pour ses photos de foules nues. Alors, vous devinez la suite. Le maire demande aux habitants de faire cette photo pour attirer les médias. Alors, cette comédie est bien dans l'air du temps, sans prétention et tout à fait réjouissante. Je ne sais pas si elle te plaira, Jean-Michel.
Sûrement pas.
Alors, effectivement, on a les problèmes des éleveurs concurrencés par la Roumanie, le malaise des bouchers menacés autant par les grandes surfaces que par la mode végétarienne, l'opposition aux villes et campagnes, les vieilles rancunes transmises de génération en génération dans les familles d'agriculteurs et... également, pour la énième fois au cinéma, le souvenir du débarquement allié et la fameuse amitié franco-américaine.
Mais quand même, c'est bien.
Mais c'est très bien. Tout nous est familier, le village, la boulangerie, la boucherie, la pharmacie, les agriculteurs sur leurs tracteurs, les vaches. Et bon, les personnages sont également bien interprétés. Je ne sais pas si je peux aller plus loin, on a le temps encore.
Bon, on va peut-être passer au suivant parce qu'on est un peu en amour. Mais franchement, c'est
agréable.
Ça se voit bien.
Tout à fait.
Jean, tu voulais nous parler de Downsizing.
Oui, Downsizing.
Très différent.
Très différent. Alors, la première scène du film nous montre un savant norvégien estomaqué par la découverte qu'il vient de faire. Il a réussi à réduire la taille d'une souris blanche dans un rapport de 1 à 15. Ce qu'il appelle le downsizing, qui, appliqué à l'homme, le réduirait à une taille de 12 cm. Nous assistons ensuite à un congrès de scientifiques où l'on apporte sur la scène une boîte, une petite boîte à chaussures, contenant le professeur et sa femme, qui proclament que la réduction de la taille des hommes est la seule solution pour lutter contre la surpopulation et la pollution de la planète. Paul et sa femme, alors, abandonnent le stress de leur quotidien dans le Nebraska pour se lancer dans une aventure qui doit changer leur vie pour toujours. Il s'ensuit de nombreuses scènes hilarantes entre les petits et les grands. La plus réussie étant celle de la réduction des volontaires au downsizing, où à la fin, on recueille les nouveaux petits hommes à la pelle à gâteau. On se croirait revenu au temps au grand temps des comédies américaines de Capra et de Howard Hawks, « Chérie, je me sens rajeunir », par exemple. Mais après ce début, le film se passe presque uniquement dans le monde des petits, et le réalisateur change de ton. Son film devient moralisateur et donc bien moins amusant. En effet, si les riches privilégiés profitent pleinement de leur nouvelle vie, les basses besognes sont accomplies par un sous-prolétariat essentiellement mexicain, dépeint avec un misérabilisme presque indécent. Il reste cependant quelques traces d'humour, comme cet immense poste de télévision qui trône dans la cour des travailleurs mexicains, ou à la façon de fabriquer 2000 cigares cubains à partir d'un seul de taille normale. Matt Damon, dans le rôle de Paul, a l'air un peu de s'ennuyer, et sa compagne vietnamienne est affublée d'un accent ridicule. Le film dure 2 heures, et donc si vous partez au bout d'une heure, ben foi, vous aurez vu l'essentiel et vous ne serez pas déçu.
C'est un film qui est vraiment excellent, effectivement, on rit pratiquement tout le temps pendant la première partie, et qui s'affaiblit un peu dans la deuxième, c'est vrai. Jean-Michel.
Bon, alors, moi je vais vous parler brièvement. D'abord, rappeler que tant qu'on peut encore le voir, il faut essayer de voir ce film d'Eric Caravaca, qui est un très bon acteur, qu'on a vu dans La Chambre des officiers et dans Son frère de Chéreau en son temps, et qui là est derrière la caméra pour faire une plongée dans l'inconscient familial et remettre en scène une petite sœur qui a disparu avant sa naissance et dont l'existence lui a toujours été cachée par ses parents. Il fait une enquête absolument fabuleuse qui est dont le montage avec des images d'archives, des photos, des films 8 et Super 8 est particulièrement prenante et montre bien combien, même à distance, la restitution d'une vérité familiale enfouie peut apporter de bien et soulager la personne qui s'y livre. Donc, allez voir ce film qui s'appelle Carré 35, du nom de l'endroit où a été enterré au Maroc. Cette petite fille de la famille Caravaca. Deux mots également, un petit peu en avant-première, puisque le film va sortir demain, de La douleur d'Emmanuel Finkiel, et qui est une illustration du livre de Marguerite Duras, qu'elle-même, en 1985, c'est-à-dire 40 ans après les faits, a tiré des carnets qu'elle avait écrits en 1945, alors qu'elle attendait son mari, Robert Antelme, qui devait revenir de camp de concentration et dont elle espérait le retour et pour lequel elle avait essayé de jouer un jeu très très ambigu avec un gestapiste qui lui-même la manipulait. Alors ce film est particulièrement fascinant parce que Mélanie Thierry, qui joue Marguerite Duras jeune, est à la fois dans ses actes et en même temps dans la voix off de Marguerite Duras, qui l'accompagne pendant tout le film. Vous irez le voir également.
Merci Jean-Michel. Bon, je voudrais vous parler très rapidement d'un film polonais, The Last Family, de Jan Matuszynski, qui est un jeune réalisateur, c'est son premier film. Le film est un biopic, mais d'un genre un peu particulier, d'abord parce que le héros dont il est question est un peintre Zdzisław Beksiński, qui est très célèbre en Pologne, mais très peu connu en dehors de son pays. Donc le spectateur français regardera le film comme une fiction et non pas comme un biopic. Et ensuite, vous ne vénérez pas une épopée grandiose et romantique d'un grand artiste, mais la vie de famille sur une vingtaine d'années du peintre, de sa femme et de son fils. Et une vie qui se passe dans une barre d'immeubles gris des années 70, typique des banlieues de Varsovie et de l'architecture de la Pologne communiste. On passe d'abord d'ailleurs un certain temps dans les couloirs et dans les ascenseurs, assez pour s'imprégner de l'atmosphère déprimante des lieux. Et cette famille connaît des moments de bonheur et des drames comme toute famille. Elle est seulement parfois un peu plus agitée que la moyenne à cause du fils qui est dépressif et suicidaire. Alors le film, il est intéressant surtout parce qu'il nous dit sur la création artistique. Le père peint des toiles crépusculaires, des paysages désolés, des mondes lugubres. Mais c'est un homme doux, passionné de musique, amoureux de sa femme, satisfait d'une vie tranquille et sans beaucoup sortir de son appartement. Et à l'opposé, son fils Thomas, lui, se compose une figure d'artiste hanté, mais il ne crée pas vraiment. Il se contente de jouer les disques jockeys et les animateurs de radio, ce qui nous vaut d'ailleurs une bande sonore du film très intéressante parce qu'elle oppose la musique classique écoutée par le père et les musiques anglo-saxonnes des années 70-80, dont le film est un spécialiste. Donc c'est un film un peu déroutant, intéressant, original et dont le pessimisme quand même est adouci par pas mal d'humour. Un film intéressant à voir. Voici. Eh bien, je crois que est venu le temps de rendre l'antenne. Merci à Françoise, Jean et Jean-Michel qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à qui nous disons à bientôt. Chant contre chant est programmé tous les quatrièmes mardis du mois de 13h15 à 14h. Et nous vous donnons donc rendez-vous le mardi 27 février.